Vous écoutez les dossiers du FBI, la disparition de Brittany Martinez. Deuxième partie.
Le 17 mai 1997, 9 jours après qu'on eut signalé la disparition de la petite Brittany Murphy d'Elgin en Illinois, on découvrit le corps d'une fillette à 30 km de là, à la rivière Kishwaukee. Le lieutenant Gene Laurie du bureau du shérif de McHenry County enquêta.
Nous ne savions pas encore s'il s'agissait de Brittany Martinez. En examinant les dossiers des personnes disparues dans notre secteur, je m'étais aperçu qu'aucune des femmes portées disparues n'était dans cette catégorie d'âge. Nous avons donc commencé à examiner les cas à l'extérieur de notre juridiction afin de trouver quelqu'un dont la description correspondrait à celle de cette victime.
On appela les autorités d'Elgin et le FBI afin de déterminer si la victime pouvait bien être Brittany. L'agent spécial Beth Mulocky eut alors la conviction d'avoir enfin retrouvé la fillette.
Pour ceux d'entre nous qui étaient impliqués dans l'enquête et connaissaient la description de Brittany, son visage, la couleur de ses cheveux et les vêtements qu'elle portait lors de sa disparition, même si le corps retrouvé sur le banc de sable dans la rivière ne portait plus de t-shirt, tout le reste concordait avec le corps de Brittany Martinez. Les cheveux sombres, le blue jean, les chaussettes et les chaussures de course.
Il était impossible d'identifier la victime visuellement et de déterminer la cause de sa mort sans pratiquer l'autopsie. Les enquêteurs ne remarquèrent aucune blessure externe. Ils croyaient qu'elle avait sans doute été tuée ailleurs, puis jetée dans la rivière. L'atmosphère au sein de l'équipe d'enquête était assez sinistre.
C'est tout à coup devenu très triste. Parce que le fait de découvrir qu'on cherchait à résoudre le meurtre d'un enfant, et non plus une simple disparition, a changé complètement le ton de l'enquête.
L'endroit où l'on avait découvert le corps ne manqua pas de retenir l'attention du détective Brian Gorkowski, car il ressemblait à l'endroit que lui avait décrit Eddie Milka.
À cet endroit, la rivière Kishwaukee ressemblait davantage à un petit cours d'eau ou un petit ruisseau qu'à une rivière. Il y avait des pierres, des chemins de terre dans le secteur et des fermes. Le paysage était le même que celui que m'avait décrit Eddie lors de sa visualisation.
Afin de vérifier que la déposition de Milka n'était pas le seul fruit du hasard, les enquêteurs devaient maintenant se mettre à la recherche de liens entre ce lieu et leurs suspects. L'équipe de cueillette d'indices, composée d'experts judiciaires du FBI, fut appelée à travailler sur l'affaire. C'est cette unité qui a passé au peigne fin les débris du vol 103 de la Paname et ceux de l'attentat à la bombe d'Oklahoma City.
L'équipe de cueillette d'indices est composée de professionnels hautement qualifiés et organisés qui savent comment mener des recherches sur une scène de crime. Comme cette affaire semblait être l'enquête sur un homicide, tous les indices seraient extrêmement importants.
Les experts judiciaires prélevèrent des échantillons de terre, d'eau et de plantes, de même que des insectes qui avaient commencé à coloniser le cadavre. En se basant sur le degré de développement de ces larves, des entomologistes estimèrent que le moment du décès de Brittany était survenu au plus tard le 9 mai à 14 h, soit le lendemain de sa disparition. Ce soir-là, Wendy Hollett pria pour qu'il ne s'agisse pas de sa fille.
J'essayais de m'accrocher à l'espoir que ce n'était pas ma fille. J'espérais qu'on découvrirait que c'était quelqu'un d'autre qu'elle, que ce n'était pas mon enfant, mais bien celui de quelqu'un d'autre.
2 jours plus tard, grâce aux radiographies dentaires de la victime, on confirma qu'il s'agissait bien de Brittany Martinez. Suite à un examen, un médecin légiste conclut qu'elle était morte par asphyxie. On retira 2 larges bandes de ruban adhésif sur son visage et sa bouche. Sur la joue, il y avait une grosse ecchymose au rebord dentelé. Pour les experts, cela ressemblait à une morsure. Le médecin légiste remarqua que la fermeture éclair de son jean n'était remontée qu'à la moitié et que ses sous-vêtements étaient à l'envers. Il découvrit 2 lacérations à son hymen. Il en conclut que cette fillette de 5e année avait été violée immédiatement avant ou au moment de sa mort. Il faudrait encore attendre quelques mois pour obtenir du laboratoire du FBI les résultats des analyses des vêtements et des échantillons de tissus de ses organes. L'agent spécial Mulanke désirait obtenir une analyse approfondie.
Je dois avouer que je n'ai pas dormi pendant plusieurs jours. Après l'avoir vu dans un tel état et avoir compris l'ampleur des événements.
Quant au détective Beater, il espérait que la découverte du corps de Britney et de ses vêtements fournirait les indices nécessaires à l'arrestation de son meurtrier.
À ce stade de l'enquête, il ne nous restait plus qu'à aviser la famille et vraiment commencer le travail en nous concentrant sur les indices que nous avions trouvés.
Au cours des 11 jours précédents, Wendy Hollett avait nourri l'espoir que sa fillette était toujours en vie. Maintenant, ses espoirs étaient anéantis. Sa pire crainte était devenue réalité.
Quand on vous annonce que c'est bien votre fille, c'est la pire émotion que l'on puisse ressentir. Je ne peux même pas vous décrire ma douleur. C'était ma seule fille. Je ne souhaite ça à personne, pas même à mon pire ennemi. Environ une heure après qu'on m'ait appris la nouvelle, je suis entrée dans sa chambre et j'ai commencé à tout briser. Mais là, ça m'a rendue encore plus à l'envers parce que je brisais ses affaires et que j'espérais encore qu'elle soit vivante, même si je savais bien que ce n'était pas le cas.
Pourquoi le corps de Britney avait-il échoué sur le sable dans cette rivière à près de 30 km de chez elle? Le lieutenant Jean Laurie demanda à sa mère si cet endroit représentait quelque chose pour elle.
À ce moment-là, elle nous a dit qu'avant de prendre sa retraite, son père avait été un employé des chemins de fer de Milwaukee et que la famille avait fréquenté à plusieurs reprises le musée du rail à Union, en Illinois, tout près de l'endroit où l'on avait retrouvé le corps de Britney Martinez.
Eddie Milka avait lui aussi fréquenté cet endroit. Les enquêteurs obtinrent un mandat les autorisant à prélever des échantillons de son sang, de sa salive et de ses cheveux. Ils les acheminèrent au laboratoire du FBI où des experts purent entamer les longues analyses d'ADN. Le profil génétique de Milka serait ensuite comparé à tout matériel génétique recueilli sur Britney et ses vêtements. Un dentiste prit ensuite l'impression des dents de Milka. Les experts pensaient que le moulage pouvait fort bien correspondre à la trace de morsure sur la joue de la fillette. Le dentiste compara le moulage à une photo agrandie des traces de dents sur le visage de la victime. Il y avait des ressemblances. Mais la décomposition du corps avait déformé la blessure. Par conséquent, il était donc impossible pour le dentiste d'affirmer hors de tout doute qu'il s'agissait bien d'une blessure infligée par les dents de Milka. Les autorités ne disposaient toujours pas de preuves matérielles nécessaires à son arrestation. Ils obtinrent un mandat les autorisant à fouiller la Lincoln que Milka avait vraisemblablement utilisée pour conduire Britney à la rivière. Les échantillons de terre prélevés à même les pneus ne permettaient pas de déterminer où la voiture avait pu aller. Les enquêteurs espéraient trouver quelque chose de plus intéressant à l'intérieur même du véhicule. Parmi le fouillis sur le siège arrière, les agents trouvèrent un verre de carton provenant d'une chaîne de restaurant. Son couvercle était taché par ce qui semblait être du sang. On y trouva l'empreinte partielle de la paume de main d'Eddie Milka. On trouva aussi les empreintes de Britney, de même que celles de sa mère. À même les fibres de la moquette arrière, les experts trouvèrent de nouvelles taches rouges. Ils prélevèrent un échantillon de la moquette et du tissu de recouvrement des sièges. En tout, ils recueillirent plus de 140 indices et les envoyèrent au laboratoire du FBI, dont la quantité de dossiers à traiter ne faisait que s'accroître. Comme il faudrait au labo plusieurs mois pour effectuer les analyses, le lieutenant Laurie demanda aux parents de Britney si quelqu'un s'était déjà blessé dans la voiture. La grand-mère maternelle de Britney, Madame Milka, se souvenait d'un saignement donné de la fillette lors d'une sortie familiale. L'autre grand-mère de Britney déclara qu'elle était également présente ce jour-là, mais qu'elle ne se rappelait pas cet incident.
Du côté de la famille Milka, on nous a dit qu'elle avait saigné du nez dans la voiture.
Lieutenant Jean Laurie.
Du côté de l'autre grand-mère, on nous a décrit une situation fort différente. Pour eux, il n'avait jamais été question de saignement de nez.
Les membres des deux familles se liguaient les uns contre les autres. Pour les Milka, Eddie n'avait tout simplement pas pu tuer Britney.
Le point le plus difficile de cette enquête, c'était le fait que le suspect faisait partie de la famille.
Agent spécial Beth Mularkey.
Cela ne pouvait qu'engendrer des tensions au sein du groupe. Nous avons eu du mal à surmonter ces tensions parce que nous désirions avoir la coopération de la famille. Mais comment pouvait-on l'obtenir quand l'un des leurs était lui-même un suspect?
Même si les preuves indirectes semblaient mener vers Eddie Milka, les témoignages contradictoires et l'absence de preuves matérielles formelles empêchaient les enquêteurs de faire accuser l'oncle de Britney du meurtre. En l'absence de preuves matérielles, il était difficile pour le FBI et les autorités locales de le faire accuser de meurtre. Les techniciens du laboratoire judiciaire du FBI à Washington avaient passé plusieurs mois à fouiller parmi les centaines de micro-indices recueillis au cours de l'enquête. Karen Lanning, une experte du service des micro-indices du FBI, avait examiné les vêtements de Britney et c'est elle qui coordonna les analyses.
Les indices ont été examinés dans une pièce réservée à cet effet. On conserve les échantillons de la victime à l'écart de ceux du suspect. Et ceux de la scène du crime sont conservés dans une autre pièce, de façon à éviter toute contamination.
Lanning examina les chaussettes, les sous-vêtements et le jean de Britney. On brossa soigneusement les vêtements pour prélever tout cheveu ou toute fibre étrangère au vêtement lui-même. À l'intérieur du jean, l'experte découvrit une mince fibre de nylon, une fibre nettement différente du denim. Elle la compara à un échantillon connu de la moquette de la voiture de Milka. Les fibres étaient identiques. Lors de quatre analyses subséquentes, Lanning obtint les mêmes résultats. Pour les enquêteurs, cela signifiait que Britney s'était trouvée sans son jean dans la voiture de Milka. Autrement, comment la fibre de la moquette aurait-elle pu se retrouver à l'intérieur du vêtement? Mais ces résultats à eux seuls n'étaient pas assez concluants, puisqu'on retrouve couramment ce type de fibre dans de nombreuses voitures.
Il m'était impossible d'affirmer que cette fibre provenait de cette voiture en particulier plutôt qu'une autre.
Karen Lanning, experte au service des micro-indices du FBI.
S'il y avait eu deux autos semblables d'impliquer dans cette affaire, je n'aurais pas su dire de laquelle la fibre provenait.
Les enquêteurs espéraient trouver des preuves plus concluantes dans les indices qui restaient à analyser. Et l'agent spécial Melissa Smurs, la directrice du service numéro 2 d'analyse mitochondriale de l'ADN au laboratoire du FBI. Au moment de l'enquête, elle était technicienne en analyse sérologique et en analyse d'ADN nucléaire. Sa tâche consistait à identifier les fluides biologiques. Elle s'aperçut bien vite que les vêtements de Britney étaient trop contaminés pour être analysés.
Quand on a retrouvé le corps de Britney, elle était morte depuis 9 jours. À cause de ce délai, son corps a commencé à se décomposer. Et les vêtements qu'elle avait alors sur elle portaient les traces de cette décomposition.
L'experte se concentra donc sur les taches rouges trouvées sur le verre de carton et la moquette de la voiture de Milka. Elle constata qu'il s'agissait de sang humain. Par une analyse d'ADN, elle découvrirait bientôt l'identité de son propriétaire. Elle compara ensuite les échantillons d'ADN connus de Britney et d'Eddie Milka à celui du verre de carton. L'agent Smurds conclut que le sang dans la voiture provenait bien de Britney. La probabilité que quelqu'un d'autre ait laissé ses traces de sang n'était que d'une sur 6,4 millions. Cela permit de faire émettre le mandat d'arrestation d'Eddie Milka. Le 18 décembre 1997, plus de 7 mois après la disparition de Britney, Eddie Milka fut accusé de meurtre, d'enlèvement et blessure, et de l'agression sexuelle d'un enfant. Son arrestation surprit Wendy Howlett.
Je n'ai pas seulement perdu ma fille, mais aussi mon frère, pour un acte que je sais qu'il n'a pas commis. J'étais abasourdie, en état de choc, ça ne pouvait pas arriver. Ce cauchemar devait finir par finir.
Pour protéger son frère, Wendy Howlett déclara qu'il était peu probable qu'Eddie se soit rendu en voiture à la rivière à McHenry County, puisqu'il n'avait jamais été à cet endroit auparavant. Elle précisa au lieutenant Gene Laurie que le musée du rail auquel Milka et elle étaient allées enfant n'était pas dans ce secteur, contrairement à ce qu'elle avait affirmé plus tôt.
Pour une raison que j'ignore, Wendy s'est rétractée.
Lieutenant Gene Laurie.
Cela nous a obligés à l'interroger de nouveau et tenter de déterminer où elle se situait. Ces déclarations constituaient la clé entre McHenry County et le meurtre.
James McAuliffe, du bureau du procureur de McHenry County, ne doutait pas que le procès à venir serait pénible. Deux des témoins clés, Wendy, la sœur d'Eddie, et sa mère, devaient témoigner en faveur du suspect.
Nous avons dû empêcher de témoigner des personnes pour lesquelles nous ressentions pourtant beaucoup de compassion. Nous n'avions pas le choix parce qu'elles avaient trop souvent modifié leur version des faits. Par conséquent, nous avons dû attaquer nos propres témoins et les membres de cette famille qui avaient déjà subi une perte si douloureuse. Cela nous a rendu la tâche très pénible. Et c'était également très difficile pour les membres des familles Milka et Howlett qui ont témoigné.
Le 21 avril 2000, soit près de 3 ans après la mort de Britney, l'affaire opposant l'État et Eddie Milka fut enfin portée devant les tribunaux. Plus de 50 témoins avaient été convoqués. Lors de leur plaidoyer, les procureurs donnèrent au jury leur reconstitution des faits. Ils croyaient qu'Eddie avait aidé Britney à ranger son vélo dans le sous-sol. Dans sa hâte, elle le laissa déverrouiller mais emporta avec elle le verre de carton qu'elle avait rapporté de sa sortie parascolaire. Il était déjà arrivé à Britney d'accompagner son oncle et sa mère sur leur lieu de travail. C'est ainsi qu'elle avait pu fournir sa part pour l'achat du vélo qu'elle aimait tant. Comme la voiture de son patron était garée devant le lieu de travail d'Eddie, ce dernier se rendit dans un bois. C'est à cet endroit, selon le procureur, qu'il aurait agressé sexuellement sa nièce et qu'il l'aurait étouffée. Ensuite, il aurait abandonné son corps dans la rivière Kishwaukee. Mais le jury ne fut pas convaincu de la culpabilité d'Eddie.
Après délibération, le jury a déclaré Milka non coupable du meurtre au premier degré dont il était accusé.
James McAuliffe, assistant du procureur.
Pour les jurés, Milka n'avait pas tué sa nièce intentionnellement.
Les membres du jury le trouvèrent toutefois coupable d'agression sexuelle. De nombreux enquêteurs, notamment le lieutenant Laurie, ont toujours éprouvé de la sympathie pour Wendy Howlett. Malheureusement, le verdict n'a pas apporté beaucoup de réconfort à sa famille.
C'est une tragédie humaine. Il n'y a aucune autre façon de décrire ces événements. Comme père, je peux vous assurer que si je devais vivre une pareille épreuve, je n'y survivrais peut-être pas. J'ai donc beaucoup de compassion à l'égard de cette mère.
Edward Milka a été condamné à 75 ans d'emprisonnement au service correctionnel de l'Illinois. Son crime a divisé une famille. Lorsque la petite Britney est morte, personne n'a pu l'entendre crier. Mais grâce aux experts judiciaires du FBI, les dernières heures de la fillette ont pu être reconstituées et l'auteur du crime cité en justice.
Vous venez d'écouter les dossiers du FBI. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les dossiers du FBI est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures. Adapté de la série documentaire audiovisuelle FBI Files, produit par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Michael Ray Brown et Marc Marabella. Il a été réalisé par Gary Meyer. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Kosiewicz, Mandy Lebourg et Astrid Verdun. Assistée de Marie Agassin. Montage Johanna Lalonde. Avec la voix d'Olivier Citruc.